Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous débattrons de l'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Les candidats avaient jusqu'à hier soir minuit pour déposer leur dossier à la commission électorale. Le Conseil constitutionnel doit encore valider ou invalider ces candidatures. En tout cas, parmi les aspirants figurent le président Alassane Ouattara, les ex-présidents Henri Colombédier et Laurent Gbagbo, ainsi que l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, soit, vous l'avez compris, les quatre principaux protagonistes de la crise post-électorale de 2010-2011. Nombreux sont donc les Ivoiriens qui redoutent que le pays ne sombre à nouveau dans les violences. Nous sommes à 2 mois de ce scrutin présidentiel. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous qui nous écoutez en Côte d'Ivoire, on a envie de vous entendre. Vos témoignages nous intéressent. Craignez-vous des troubles? Dites-nous si votre pays peut à nouveau sombrer dans une crise. On en parle donc dans une demi-heure. D'ici là, vous continuez à nous appeler. 33 9 693 693 70. J'ai déjà sous les yeux des dizaines et des dizaines de commentaires postés sur Facebook et WhatsApp. J'ai un œil en permanence sur mon ordinateur, donc je reçois vos courriers électroniques, je reçois vos réactions sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à continuer à nous rejoindre. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI. Des questions pour commencer ce matin sur les obsèques de l'ancien président congolais Pascal Lissouba, décédé la semaine dernière. Bonjour Fred.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur RFI, vous êtes à Brazzaville, nous vous écoutons.
L'ancien président Pascal Lissouba est décédé la semaine dernière dans le sud de la France, où il a été enterré à l'âge de 88 ans. À ce sujet, j'ai des questions. Alors, pourquoi la famille a-t-elle choisi de l'enterrer en France ?
Oui, c'est vrai que Pascal Lissouba a été inhumé hier à Perpignan, dans cette ville du sud de la France où il vivait depuis plusieurs années. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, vous avez assisté pour l'antenne de la Radio Mondiale à la messe donnée hier en la mémoire de l'ancien président en la cathédrale basilique Saint-Jean-Baptiste. Expliquez-nous pourquoi la famille a-t-elle choisi d'enterrer Pascal Lissouba en France ?
Alors d'abord, la famille a insisté, hein, c'est un enterrement provisoire à terme. Elle souhaite bien que Pascal Lissouba puisse être rapatrié et enterré au Congo, mais elle estime qu'actuellement les conditions pour un enterrement digne, solennel et apaisé ne sont pas réunies. Alors pour comprendre, il faut revenir aux conditions de son départ en exil en 97. Il est chassé au terme d'une guerre meurtrière au profit de Denis Sassou Nguesso, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Et depuis, hein, malgré 23 années d'exil, la hache de guerre, si je puis dire, n'a pas encore été enterrée. Il y a eu quelques gestes présentés par le président Denis Sassou Nguesso comme des gestes de réconciliation. Mais parmi les proches de Pascal Lissouba, on est unanime pour dire que ce n'était qu'une réconciliation de façade. Et dans ce contexte, eh bien, organiser le retour de sa dépouille serait un peu perçu comme une humiliation.
Et sait-on, Florence Maurice, quelles seraient les conditions à réunir pour favoriser le retour de la dépouille de Pascal Lissouba dans son pays?
Il semble que tout le monde ne soit pas d'accord sur ce point, ni dans les rangs des partisans de l'ancien président, ni au sein de sa famille. D'un côté, il y a ceux pour qui il n'est pas question qu'il soit rapatrié tant que l'actuel président sera au pouvoir. Certains anciens collaborateurs de Pascal Lissouba assurent même qu'il avait exprimé cette volonté de son vivant, mais ses enfants ne le confirment pas. Pour d'autres, il faudrait au minimum une réconciliation, une vraie réconciliation à leurs yeux en tout cas, car du côté du parti au pouvoir, on affirme que la nation congolaise est bel et bien réconciliée et la famille doit donc se réunir pour trouver un terrain d'entente. Ce débat a enflammé la toile depuis son décès. Même mort, on voit bien que Pascal Lissouba déchaîne les passions et c'est pour faire taire cette polémique et éviter que l'affaire ne soit davantage encore politisée avant qu'il ne soit enterré, qu'il a été inhumé provisoirement à Perpignan.
Fred, vous avez une autre question?
Pourquoi deux anciens présidents congolais morts en France y sont enterrés? Y a-t-il un refus des autorités congolaises de les laisser entrer au pays?
Alors c'est vrai, Fred a raison de le rappeler. Florence Maurice, le 30 mars dernier, un autre ex-président congolais est décédé en France.
Oui, Joachim Yambi Opango, chef de l'État de 77 à 1979, mais la situation n'est pas tout à fait comparable. Lui aussi, il avait connu l'exil forcé autrefois, mais depuis plus de 10 ans, il vivait entre la France et le Congo par choix, et surtout, il est décédé du coronavirus en plein confinement mondial avec des frontières fermées en mars dernier. La question de son lieu d'inhumation ne se posait donc pas tout à fait de la même manière qu'aujourd'hui pour Pascal Lissouba.
Mais concernant Pascal Lissouba, y a-t-il un refus de la part des autorités congolaises de le laisser rentrer au pays ?
Alors, le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, assure que les autorités, je cite, restent attentives à la position de la famille. Mais à ma connaissance, la famille n'a pas encore sollicité de retour. De son côté, la présidence, qui n'a fait d'ailleurs aucune déclaration sur ce décès, ni prévu aucun hommage national, ne l'a pas non plus proposé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont montré aucun empressement, mais il n'y a pas eu non plus de refus formel à ce stade.
Ouais. Vous lisiez à l'instant, il n'y a pas eu d'hommage au Congo-Brazzaville. Il faut noter tout de même qu'il n'existe pas au Congo un mémorial qui est dédié aux personnalités de ce rang, aux anciens présidents.
Non, et d'ailleurs beaucoup rappellent aujourd'hui que l'abbé Fulbert Youlou, président au moment de l'indépendance du Congo, encore un ancien président congolais mort en Espagne, en exil pardon, mais lui c'était en Espagne, il a fini par être rapatrié il y a quelques années, mais faute de mémorial, il repose dans un modeste cimetière en périphérie de Brazzaville, modeste pour ne pas dire délabré, sans entretien en tout cas de la part des autorités.
Oui Fred, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci Juan.
Merci surtout à Florence Maurice, envoyée spéciale de RFI à Perpignan. Vous souhaitez réagir à cette polémique, vous êtes les bienvenus sur l'antenne de RFI. On en parlera si vous le souhaitez évidemment vendredi dans la libre antenne. Il est 10h17 ici à Paris. D'autres questions pour comprendre l'actualité. On va parler maintenant de la situation en Biélorussie où la contestation ne faiblit pas. Dimanche, vous l'avez suivi sur nos antennes, les manifestants étaient encore des dizaines de milliers dans les rues de Minsk pour protester contre la réélection il y a maintenant 3 semaines du président. Président Loukachenko, une nouvelle manifestation est même prévue ce mardi. Bonjour Olive.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Goma, en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci Juan. Pourquoi le président russe Vladimir Poutine continue de soutenir Alexandre Loukachenko alors qu'il l'avait accusé d'ingérence dans le scrutin?
Ah, bonne question, pertinente question que vous posez. Pour vous répondre, un spécialiste des questions russes. Bonjour Jean de Glignasti.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRS. Je précise que vous avez été ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013 et vous publiez aux éditions Erol Géopolitique de la Russie. Je comprends la question d'Olive. C'est vrai qu'on a du mal à analyser les relations entre les deux hommes, entre Vladimir Poutine et son homologue biélorusse. Le président russe, si j'ai bien compris, et Olive aussi visiblement, semble aujourd'hui être le plus proche allié de Loukachenko et pourtant, on se souvient que durant la campagne électorale, il y a encore quelques semaines, le président biélorusse accusait la Russie de s'ingérer dans la vie politique de son pays.
Oui, en fait, Poutine n'a pas bien le choix. Loukachenko a toujours été un allié difficile pour la Russie. Il négocie âprement le prix du pétrole, il négocie le soutien militaire, il négocie les exportations. Il y a toujours eu des crises et visiblement, les deux hommes ne s'entendent pas très bien. Cela dit, la Biélorussie est un allié sûr pour la Russie. Elle a signé, Loukachenko lui-même, en 1997, un traité d'union qui, à terme, porte effectivement l'unification des deux pays. La Biélorussie a toujours été un des membres fondateurs de tous les traités et organisations qui permettent à la Russie de reconstituer, en quelque sorte, un semblant du RSS, enfin, une communauté d'États proche d'elle. Et donc la Biélorussie est un allié très fort, très très intense, très particulier pour la Russie. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, où il y a un grand parti anti-russe. C'est pas le cas en Biélorussie, et les manifestants n'ont jamais mis en cause l'alliance russe. Sur la question de l'intervention dans les élections biélorusses de la Russie, qui avait été incriminée par Loukachenko. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Dans la presse russe, on dit que c'était peut-être une provocation occidentale. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Loukachenko a fait du nationalisme et du patriotisme et de l'indépendance de la Biélorussie un thème de sa campagne électorale. Et donc, ça lui rendait service de pouvoir incriminer la Russie pour montrer qu'il était garant de l'indépendance nationale à la fois contre l'Occident et contre la Russie.
Ouais, enfin, il incrimine la Russie et en même temps, il ne peut pas se passer du partenariat très important pour Minsk, partenariat conclu avec Moscou. Jean de Glignasti, Olive a d'autres questions à vous poser sur cette actualité biélorusse. Bon, Olive.
Confirmer l'existence des renforts armés pour soutenir Loukachenko si besoin. Alors, du coup, comment réagissent l'Union européenne et l'OTAN ?
Alors, Vladimir Poutine qui a effectivement menacé d'intervenir en Biélorussie.
Alors, il a menacé d'intervenir dans l'hypothèse où il y aurait des troubles graves, des incendies de banques, etc., etc. Mais en même temps, il a appelé au dialogue. Donc, il se réserve les deux cartes, si je puis dire. Donc, l'Union européenne a réagi avec prudence pour une raison simple, c'est que elle a été échaudée par l'affaire ukrainienne. Comme je l'ai dit, le statut de la Biélorussie n'est pas celui de l'Ukraine, puisqu'il y a ce fameux traité d'union qui est régulièrement approfondi et qui d'ailleurs a une clause de sécurité qui pourrait être invoquée, d'ailleurs Poutine l'a fait, pour une éventuelle intervention. Donc l'Union européenne, elle a pris des sanctions, mais personnelles, contre Loukachenko et contre des... Elle est en train de les prendre, gel des avoirs, enfin des sanctions en fait très ciblées, qui ne sont pas des sanctions économiques générales, comme dans le cas de l'Ukraine, et ce sont des sanctions dirigées contre les Biélorusses et non pas contre les Russes.
Ouais. Mais en deux mots, Jean de Glignasti, pensez-vous vraiment que la Russie interviendra militairement en Biélorussie ? Est-ce que ce scénario vous semble plausible ?
C'est très difficile à dire, parce que ce qui est sûr, c'est que la Biélorussie est fondamentale pour la Russie. Donc la Russie, si ça tourne mal, je pense, interviendra. Mais pour la presse russe dit, si nous intervenons, nous perdons l'amitié de la Biélorussie pour des siècles, ce qui est tout à fait vrai. Pour l'instant, les manifestations ne sont pas du tout anti-russes. Mais manifestement, Poutine incite Loukachenko à avoir un minimum de dialogue, ce qui n'est pas le cas actuellement. Loukachenko campe sur une ligne très dure. Donc c'est un défi pour Poutine, et ça, à ce moment-là, ça sera un défi pour l'Union européenne s'il intervient.
Ouais. Olive, a-t-on répondu à vos questions ?
Ouais, très clairement, merci beaucoup.
Et merci à vous de votre fidélité. Bonne journée, Jean de Glignasti. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à notre auditeur de Goma. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et vous publiez aux éditions Erol, Géopolitique de la Russie. Vous avez écouté le dernier journal de la Radio Mondiale. Vous n'avez peut-être pas tout compris. Vous souhaitez un complément d'information. Eh bien, nous sommes là pour ça. Tous les matins, nous répondons à vos questions. Donc, appelez-nous et n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée, évidemment, puisqu'on a besoin de connaître vos questions pour contacter nos experts, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Bonjour Samuel.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Merci de nous appeler de Koupéla, c'est dans la région centre-est du Burkina Faso.
Oui.
Voilà, nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
En fait, le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU a annoncé l'existence de cas de la poliomyélite au Soudan. Pourquoi cette maladie existe toujours en Afrique alors que l'OMS avait déclaré son éradication totale ?
Ouais. C'est une bonne question que vous posez. On en parlait déjà hier avec Richard Mihigo, qui nous fait l'amitié une fois de plus d'être en direct avec nous ce matin. Bonjour Richard Mihigo.
Bonjour Juan.
Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le coordinateur des programmes d'immunisation et de développement des vaccins du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. On a du mal à comprendre. La semaine dernière, l'OMS annonce que la polio est définitivement éradiquée sur le continent africain. Donc, annonce historique, excellente nouvelle. Et quelques jours plus tard, vendredi, on apprend par l'intermédiaire de l'OCHA, donc le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, que plusieurs cas ont été signalés. Samuel parlait du Soudan, mais je citerai également l'Éthiopie, la Centrafrique, le Tchad. Il y a quand même contradiction.
Bonjour Juan, bonjour à vos auditeurs. Il n'y a pas contradiction, peut-être juste une petite clarification. L'OMS, il y a une semaine de cela, a annoncé l'éradication totale du poliovirus sauvage, qui est en fait la souche qui paralyse la quasi-totalité des enfants dans le monde. Alors les cas que nous voyons aujourd'hui, tels que vient de le rapporter votre auditeur au Soudan et à une moindre mesure dans certains autres pays, c'est plutôt des paralysies qui sont liées à une souche dérivée du vaccin. Ce qui est deux choses complètement différentes. Et le poliovirus dérivé de la souche vaccinale, en fait, survient lorsque, comme vous le savez, nous utilisons un vaccin oral. Et ce vaccin oral qui est administré aux enfants par voie orale se réplique dans l'estomac des enfants pour créer une immunité et la production des anticorps. Et il y a une certaine excrétion de cette souche vaccinale dans la nature qui peut, lorsque elle rentre en contact avec certaines personnes à faible immunité et surtout après une longue période de mutation, créer une certaine virulence.
Ouais. Donc si je comprends bien, c'est technique et c'est scientifique, Richard Migaud, je me mets donc dans la tête des auditeurs qui vous écoutent. Vous êtes en train de nous dire que ces nouveaux cas qui sont signalés ne sont pas liés au virus sauvage de la polio, hein, pour parler français facile, mais ils sont liés à une souche vaccinale, c'est-à-dire qu'ils sont liés au vaccin qui est utilisé pour lutter contre la polio.
Ils sont en effet liés à une souche vaccinale et non à une souche sauvage qui a été complètement éradiquée de la région africaine. Donc dans des cas extrêmement rares, il s'est fait que la souche vaccinale puisse muter et créer quelques paralysies résiduelles. C'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Mais nous avons des instruments, nous avons des outils, le vaccin, pour lutter contre ces cas résiduels. Ce qui notamment met les populations et les enfants à l'abri. Et d'ailleurs, dans tous ces pays, l'OMS est en train de travailler avec les gouvernements pour lancer des campagnes de vaccination et être sûr que ces souches dérivées puissent être également mises sous contrôle.
Oui, il y a une campagne de vaccination prévue pour 5 millions d'enfants de moins de 5 ans. Donc vous confirmez, Richard Migaud, en tant que membre de l'OMS, que la polio ne circule plus sur le continent africain.
Absolument. Absolument. Le poliovirus sauvage a été complètement éradiqué, oui, du continent africain.
Samuel, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, très très bien, Juan.
Merci de votre fidélité, bonne journée à Coupéla. Richard Migaud, merci infiniment de vous libérer à chaque fois que nous vous sollicitons pour répondre aux questions des auditeurs. Je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle que vous êtes le coordinateur des programmes d'immunisation du Bureau Régional de l'OMS pour l'Afrique. On avait prévu également ce matin des questions concernant les réformes électorales en République démocratique du Congo. Tout le monde en parle sur place, évidemment, puisque sur ce sujet-là, tout du moins, l'opposition et le pouvoir sont d'accord, tout le monde dit il faut procéder à des réformes électorales. Malheureusement, faute de temps, on n'aura pas le temps de d'appeler Passion Ligaudi, qui est notre correspondant à Kinshasa, d'accueillir Trésor, mais pas d'inquiétude Trésor. On vous rappelle demain, on est en direct tous les matins, 8h10 temps universel, 10h10 heure de Paris, donc on vous rappelle demain et vous aurez largement l'occasion de vous exprimer et de poser les questions donc en direct. Dans 10 minutes, on sera de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité et nous débattrons de la campagne électorale et de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, scrutin prévu dans 2 mois, le 31 octobre. Les candidats avaient jusqu'à hier soir minuit pour déposer leur dossier de candidature. Évidemment, vous qui êtes sur place, vous êtes mieux placés que moi pour le savoir. L'inquiétude règne sur les prochaines semaines. Comment va se dérouler cette élection présidentielle? Craignez-vous que le scénario de 2010 se répète? Vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission et le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité à nous faire part de vos inquiétudes. Certains d'entre vous nous disent même vivre avec un sentiment de peur. Vous nous appelez, nous vous donnons la parole, 33 9 693 693 70. À tout de suite.